RCF.
7h30, l'essentiel de l'info de ce lundi 15 avril, c'est avec Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
Bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous.
L'Iran met en avant son droit à l'autodéfense après son offensive sur Israël ce week-end.
Pendant ce temps, Israël réclame des sanctions à l'égard de l'Iran. La communauté internationale craint de son côté un embrasement régional. On en parle en début de journal. Un procès historique débute aujourd'hui, celui de l'ancien président américain Donald Trump. Le candidat à l'élection de novembre est soupçonné d'avoir tenté de dissimuler une relation sexuelle avec une ancienne star de film X. En France, 5 ans après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, les principaux défis de sa restauration ont été relevés. Et sa réouverture reste prévue le 8 décembre, une date attendue par certains commerçants pour qui le manque à gagner lié à l'incendie de la cathédrale a été énorme. Reportage dans un instant.
L'Iran affirme n'avoir pas eu le choix.
L'Iran met en avant son droit à l'autodéfense après avoir lancé ce week-end des centaines de drones et de missiles vers Israël. Israël qui réclame pour sa part toutes les sanctions possibles contre Téhéran. Ni la région ni le monde ne peuvent se permettre plus de guerres, a lancé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelant à la retenue maximale lors d'un conseil de sécurité. Le récit des dernières informations avec Florian Perret.
L'Iran considère l'affaire close, mais comment va réagir Israël? Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Iran a mené une attaque inédite sur le sol israélien. Plus de 300 drones et missiles ont été lancés sur l'État hébreu, selon l'armée israélienne. Cette dernière assure que 99% des tirs ont été interceptés, grâce notamment à l'aide des États-Unis et du Royaume-Uni. À la suite de cette attaque, la communauté internationale a fait part de sa grande inquiétude sur les risques d'une escalade dans la région. Les membres du G7 ont donné à Israël leur plein soutien alors qu'ils étaient réunis en visioconférence hier. L'Iran a aussi mis en garde les États-Unis, les exhortant à rester à l'écart de son conflit avec Israël. Toute menace émanant du gouvernement terroriste américain et du régime sioniste entraînera une réponse réciproque et proportionnée de la part de la République islamique d'Iran, ont averti les gardiens de la révolution.
Le président Joe Biden a d'ailleurs rappelé son soutien inébranlable à Israël tout en prévenant qu'il ne soutiendrait pas Israël donc dans une attaque directe contre l'Iran.
Et lui est l'ancien président des États-Unis et son procès inédit s'ouvre aujourd'hui.
Procès historique, même Donald Trump, l'ancien président candidat à sa réélection en novembre prochain, va passer par le banc des accusés à partir d'aujourd'hui. Le milliardaire fait face à son premier procès au pénal à New York. Le fait qu'un ex-président des États-Unis risque de la prison est déjà une première dans l'histoire américaine. L'affaire qui le concerne date de la campagne présidentielle de 2016, celle remportée par donc Trump face à Hillary Clinton. Il est soupçonné d'avoir tenté de dissimuler une relation sexuelle avec une ancienne star de film X. Baptiste Madinier.
Oui, la fameuse Stormy Daniels a-t-elle reçu de l'argent ou non de la part de Donald Trump pour taire une potentielle relation sexuelle avec le milliardaire dans les années 2000? Et l'ancien président a-t-il tenté de cacher cette transaction? Ce sont les questions auxquelles devront répondre les jurés qui seront sélectionnés tout à l'heure. Il s'agit donc de savoir si Trump s'est rendu coupable ou non de falsification de documents comptables. Inculpé il y a un an de 34 chefs d'accusation pour ce crime, puni chacun jusqu'à 4 ans de prison, Donald Trump a plaidé non coupable. Selon l'accusation, cette falsification aurait permis à Trump, pendant la campagne présidentielle de 2016, de dissimuler le versement de 130 000 dollars à Stormy Daniels. Condamnation ou pas, difficile de savoir quel sera l'impact de ce procès sur la campagne de Trump. Pour l'instant, les affaires judiciaires ont plutôt servi de carburant auprès de sa base. Elles viennent alimenter son discours de porte-étendard du peuple que le pouvoir en place désire faire tomber.
Et un peu plus de 3 ans donc après avoir quitté la Maison Blanche dans le chaos, il risque, Donald Trump en théorie, une peine de prison. Mais cela ne l'empêcherait pas d'être candidat au scrutin présidentiel, mais placerait donc la campagne dans une situation plus qu'inédite.
Il y a une conférence internationale s'ouvre aujourd'hui à Paris sur le Soudan, 1 an après le début de la guerre, avec l'espoir de réveiller la mobilisation sur, je cite, une crise oubliée.
Oui, depuis un an, le Soudan est en guerre. Un affrontement entre deux généraux de l'armée qui prend en otage la population civile. Le nombre de victimes est difficile à estimer car très peu d'informations sont accessibles. Mais selon l'ONU, on se trouve face à une des crises humanitaires et de déplacement de population les plus importantes au monde, avec 9 millions de déplacés. Pourtant, la communauté internationale est jusqu'ici peu mobilisée. Aujourd'hui se tient donc à Paris une conférence internationale pour le Soudan. Pour Claire Nicolet, responsable du programme Urgence Soudan de Médecins Sans Frontières, beaucoup de choses pourraient être faites écouter.
C'est toujours important d'avoir ce genre de conférence parce que ça amène quand même un grand nombre de personnes autour de la table et ça permet de discuter du sujet soudanais, ce qui est aujourd'hui un petit peu oublié à notre sens. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être portées par la communauté internationale. La première, c'est toutes les questions d'accès, puisque aujourd'hui on a toujours ces difficultés d'accès, de pas avoir le droit de se déplacer en tant qu'humanitaire dans certaines régions. Il y a bien sûr une question de financement, donc c'est une crise qui est extrêmement sous-financée et malheureusement, bien sûr, il y a besoin d'avoir des moyens aussi pour apporter de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, c'est pas le cas non plus. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets et bien sûr, la médiation pour amener la paix dans le pays. Donc tous ces sujets-là, en fait, c'est des sujets qui peuvent être portés par la communauté internationale.
Et tout autre chose, 5 ans après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, les principaux défis de sa restauration ont été relevés.
Oui, et sa réouverture reste prévue le 8 décembre, selon Philippe Jost, président de l'établissement public, supervisant sa reconstruction. Le 8 décembre, une date attendue par beaucoup et notamment par les commerçants du quartier. Suzanne Marion est partie à la rencontre de l'un d'eux.
La terrasse de la brasserie Esmeralda se trouve au bout de la rue du Cloître Notre-Dame, face à la palissade qui protège des travaux. Roger Frédéric Riard, son gérant, n'a qu'une hâte.
Parce que tout le monde attend la réouverture de Notre-Dame. J'ai même mis un compte à rebours que chaque jour on peut regarder combien de jours il nous reste avant l'ouverture. Ça sera un grand changement évidemment. Et puis un afflux de personnes qui sera normalement conséquent.
En ce début de printemps, le soleil attire parisiens et touristes. Mais 5 ans après l'incendie, le manque de chiffre d'affaires est toujours une réalité.
On a un manque de fréquentation de 30%. Voilà, par rapport à d'habitude, c'est sûr qu'autour de Notre-Dame, il y a moins de monde qu'avant.
Pour remplir ses caisses, le restaurateur ne compte pas sur les JO.
Non, ça va être compliqué parce que les îles vont nécessiter des passes spéciaux. Ils vont fermer l'île pendant pas mal de temps pour préparer les événements. Donc il n'y aura qu'un seul pont pour accéder à l'île de la Cité. Les touristes, ils n'auront pas forcément les passes pour accéder à l'île. Les Parisiens, ils vont se sauver. Donc moi, je reste très sceptique sur les Jeux Olympiques et même à se demander s'il ne vaudrait mieux pas fermer cette période-là.
Comme lui, les commerçants du quartier attendent la même chose, que les échafaudages disparaissent et que reprenne la vie normale de Notre-Dame.
Merci Suzanne Marion pour ce reportage.
Et ce matin, nous recevons Mathieu Lourse, historien et spécialiste des architectures religieuses. Il est donc l'invité de la matinale pour parler des 5 ans de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Emmanuel Macron lancera symboliquement aujourd'hui le compte à rebours des JO de Paris, d'abord avec une interview accordée à nos confrères de BFM TV à 8h20, avant une inspection du chantier du Grand Palais à Paris qui doit abriter plusieurs épreuves.
Il est disponible dès aujourd'hui, le pass colo lancé par le gouvernement.
Il a été créé pour inciter les parents à envoyer leurs enfants en colonie de vacances. Il s'agit d'une aide comprise entre 200 et 350 euros par foyer pour les enfants de 11 ans. Ce pass doit profiter aux familles touchant jusqu'à 4000 euros de revenus par mois, soit 80% des foyers de pré-ados de 11 ans. Un dispositif vu comme un nouveau rite républicain, c'est ce qu'indiquait le gouvernement. Anne Carayon, directrice générale de Jeunesse au plein air et de Partir et Devenir, y voilà un vrai coup de pouce, notamment pour les familles les plus précaires.
C'est un véritable coup de pouce qui permet de lever le premier frein, qui est le frein financier. C'est également un coup de pouce pour les familles qui sont habituellement aidées, puisque ces aides sont cumulables. Je peux partir avec le pass colo. Si je choisis en plus le séjour des colo apprenantes qui est aussi un dispositif aidé par l'État, c'est cumulable. Et puis si je perçois les aides vacances et MSA, c'est aussi cumulable. Donc pour certaines familles, ces séjours, finalement, seront quasiment accessibles gratuitement pour les familles les plus nécessiteuses et puis pour les autres, il va y avoir une participation. Mais encore une fois, c'est des séjours qui seront ouverts à tous les enfants. Donc même si je n'ai pas droit à des aides, c'est qu'a priori je peux offrir ce séjour-là à mes enfants, mon enfant peut partir avec un copain sur ce même séjour.
Et on termine par un mot de football avec la Ligue 1. Une affiche complètement folle. Je crois que vous avez regardé ça, Grégoire Jean.
J'ai dû me coucher tard.
L'Olympique Lyonnais a remporté un succès assez renversant contre le Stade Brestois, 4-3 hier. De quoi vous faire plaisir, je crois, Grégoire Jean.
En tout cas, en tant qu'amoureux du football, merci beaucoup, Lucie Rispalo. Au bout de la nuit, cette victoire de l'Olympique Lyonnais. Merci beaucoup pour ce tour de l'information. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 8h.